Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus assister à cette rencontre autour d'un album de bande dessinée. Alors je crois comprendre que la bande dessinée n'est pas forcément un médium que l'on suit ou que l'on traite beaucoup dans cette maison, mais que ça pourrait le devenir davantage et que ça commence à se... et que le 9e art, comme on l'appelle, commence à faire une petite percée ici, en tout cas dans le monde des sciences sociales. Nous allons parler aujourd'hui d'un album. Donc, je me présente, je m'appelle Frédéric Potet, je suis journaliste au journal Le Monde, spécialiste de la bande dessinée, justement. Et donc nous allons avoir une discussion autour d'un album qui vient de sortir en Suisse, qui s'appelle donc Berne, nid d'espions. C'est un titre, vous allez le voir, va nous permettre de plonger dans le Berne des années 50 et dans le milieu de l'espionnage. J'essaie de vous mettre l'eau à la bouche parce que c'est vraiment un bouquin vraiment passionnant, une véritable découverte en ce qui me concerne. Et donc je remercie les deux auteurs, Mathieu Berthaud et Éric Burnand, d'être venus à notre rencontre pour nous en parler. Je vous propose qu'on commence peut-être par une petite bande-annonce, qui est une bande-annonce qui a été réalisée ici et qui va en moins de 2 minutes, je crois, ou en moins d'une minute, je ne me souviens plus, nous faire un bref aperçu, nous donner un bref aperçu de ce dont il est question dans cet ouvrage. Merci. Alors, malgré les petits problèmes de son, vous avez compris que nous sommes dans une histoire donc d'espionnage qui était à la fois aussi un scandale d'État, une sorte d'engrenage diplomatique, tartufferie également d'une certaine façon, puisqu'on va voir qu'il y a un certain nombre de ramifications politiques, diplomatiques. C'est une histoire qui est très difficile à résumer en quelques mots. Elle concerne un homme qui s'appelait René Dubois, qui fut à la fois procureur général à Berne, donc en Suisse, et également chef du contre-espionnage suisse. Donc on peut déjà se dire qu'il peut y avoir une certaine contradiction à occuper deux postes aussi dissemblables. Et cet homme va se trouver donc embarqué dans une affaire absolument invraisemblable. Donc ceci est une histoire vraie, est une histoire véridique, très peu connue en France, assez peu connue également en Suisse, je crois. Je ne voudrais pas être maladroit, mais je crois que je vais vous laisser quand même essayer de la résumer en quelques étapes, en sachant que nous sommes dans un contexte assez particulier, qui est le contexte donc de la guerre froide, de la guerre d'Algérie, de la crise de Suez également. Et René Dubois est au cœur finalement d'un nombre d'enjeux qui vont finir par le dépasser. Je crois que, Eric, vous pouvez peut-être nous expliquer en quelques mots.
Sans divulgâcher l'histoire. En fait, c'est compliqué parce que, comme vous l'avez dit, on avait dans notre pays à cette époque une curieuse, disons, double casquette, puisque la personne était en même temps chef du contre-espionnage et en même temps le magistrat le plus haut placé comme procureur général de la Confédération suisse. Et cet homme s'est trouvé à un moment accusé d'avoir transmis aux services secrets français des procès-verbaux d'écoute téléphonique effectués à l'ambassade d'Égypte à Berne. Pour que vous compreniez le contexte, donc on est en 57, dans la première partie de la guerre d'indépendance algérienne. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont réfugiés en Suisse, des étudiants ou des militants indépendantistes, puisqu'en France, ils ont un peu de peine à travailler librement. Donc, ils sont venus se réfugier en Suisse. Et comme le déplorait le gouvernement français de l'époque, c'est Guy Mollet, à ce moment-là, qui est chef du gouvernement français, la Suisse était une base arrière du FLN. C'est-à-dire que c'est à partir de la Suisse qu'on développait certaines actions en Algérie ou au plan international. Et l'ambassade d'Égypte, à l'époque, c'est Nasser, donc, qui vient d'être le dirigeant égyptien. Lui, il soutient la révolution algérienne. Et donc, il y a des contacts réguliers entre les indépendantistes qui habitent en Suisse et l'ambassade d'Égypte, qui est également une base arrière de la rébellion algérienne, pour utiliser les termes de l'époque. Et là, au milieu, se trouve une petite police de contre-espionnage, enfin des agents de contre-espionnage suisses, qui avaient très peu de moyens, mais enfin qui existaient quand même, et qui ont été influencés par un barbouze.
Un barbouze français
à l'ambassade de France à Berne, qui en fait tenait l'ambassade de France, qui était un dénommé Mercier. Et c'est ce Mercier qui a réussi à embobiner un peu René Dubois, et surtout à infiltrer la police suisse avec un agent qui travaillait pour lui. En gros, c'est ça. Donc, c'est une affaire de service secret. Après, là-dessus vient s'ajouter, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, la CIA, qui évidemment aussi joue un rôle. Donc, cette affaire, elle est très intéressante parce que c'est une affaire franco-suisse. Ce n'est pas du tout seulement une affaire suisse, c'est une affaire franco-algériano-suisse qui éclaire à la fois les contradictions de l'époque, mais elle éclaire aussi la manière dont les choses ont évolué par la suite. Puisque suite à ce scandale, ça a incité la Suisse à s'engager davantage dans la négociation de jouer les entremetteurs ou les entremetteuses entre les Algériens et les Français, ce qui a abouti finalement aux accords d'Évian. Donc c'est une affaire qui a joué un rôle politique très important, aussi bien pour la Suisse que pour la France, que pour les Algériens. Voilà, en quelques mots. Hein.
Absolument, c'est parfaitement résumé. On dirait que vous avez écrit le bouquin. Alors de notre point de vue de Français, on est évidemment... surpris, étonné de voir que la célèbre neutralité suisse est finalement secouée dans cette affaire, malmenée. Qu'en était-il réellement ? Est-ce que la Suisse était à cette époque-là totalement neutre, comme elle l'a toujours prétendu ? Parce qu'on comprend aussi que les écoutes qui sont faites ont aussi été probablement commandées par le gouvernement.
Oui, probablement. Enfin... C'est-à-dire que la Suisse a toujours été très hypocrite avec sa neutralité. Hein. Elle a toujours considéré qu'elle était neutre, mais en fait, elle était quand même presque toujours alignée sur le camp occidental. On le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, c'est la même chose. Mais à cette époque-là, on est en pleine guerre froide et la Confédération suisse était de facto dans le camp occidental. Et il y avait des gens à l'intérieur de l'appareil d'État qui étaient très proches des Français. Et donc, ils se sont alignés sur la position française pour dire que la guerre qui se développait dans le Moyen-Orient et surtout en Afrique du Nord, c'était vraiment une guerre de civilisation, que Nasser était un nouvel Hitler, qu'il fallait tout faire pour l'empêcher de gagner. Donc il y avait vraiment des gens qui avaient laissé complètement de côté leur neutralité, d'où l'engagement presque officiel d'une partie du gouvernement aux côtés des Français. Après, ça a changé, évidemment. Mais disons, la neutralité, la Suisse a toujours été très hypocrite sur sa neutralité. Et là, c'est pour ça que cette affaire m'intéresse, c'est qu'elle montre au grand jour, tout d'un coup, le roi était nu. Que les services de renseignement échangent des informations, c'est connu dans le monde entier. Mais évidemment, il ne faut pas que ça se sache. Et là, quand tout d'un coup, on apprend que la police suisse a mis sur écoute l'ambassade d'Égypte et a notamment enregistré aussi des conversations entre Américains et Égyptiens, évidemment, c'était très embêtant.
Oui, il faut savoir que les Américains étaient intéressés à l'époque par les réserves pétrolières en Algérie qui étaient évidemment menacées par la, par le scénario d'une indépendance. Ouais. Voilà. On découvre aussi qu'il n'y a pas que des services de renseignement, un contre-espionnage suisse, il y a aussi un contre-espionnage suisse militaire qui va en fait essayer de jouer un rôle également dans cette, ouais, dans cette affaire.
Alors on ne va pas entrer dans les détails, ouais, mais disons, comme dans tous les pays, il y a toujours des guerres de police, des guerres de services. En France, on le connaît entre la DGSI, la DGSE, la DST. Les services de renseignement et de contre-espionnage se tirent généralement dans les pattes. Mais la Suisse était particulière parce qu'il y avait d'un côté l'armée, qui avait un service de renseignement, et de l'autre côté les civils, en fait, les autorités civiles. Et effectivement, il y avait une grande concurrence entre les deux. Et comme ce Dubois était social-démocrate, il était évidemment très mal vu du côté de l'armée, où on était très à droite et on considérait que tout ce qui était vaguement socialiste était un danger pour l'État. Oui. Donc il y avait un conflit entre eux.
D'autant plus qu'il avait levé quelques affaires de corruption au sein de l'armée, hein, c'est ça, oui, absolument. Alors, est-ce que c'est une affaire, bon, comme je le disais en préambule, c'est une affaire qui est totalement méconnue en France. Qu'en est-il en Suisse ?
Franchement, elle est pratiquement aussi méconnue en Suisse qu'en France, parce que c'est une affaire qui a été étouffée lorsqu'elle a éclaté, il y a quand même maintenant 66 ans. Ensuite, tous les documents ont été classés secrets, ils ont été mis dans les archives. Et à part quelques journalistes qui s'y sont un petit peu intéressés, quelques témoins de l'époque, une thèse qui est très bonne, d'ailleurs, qui est en vente à la sortie, qui a parlé un peu de cette histoire. Dans le grand public, on a très peu parlé de cette affaire. Donc là, on fait œuvre un peu de pionnier. En plus, en la présentant sous forme de bande dessinée, on a atteint évidemment un beaucoup plus grand public que si ça avait été une thèse universitaire.
C'est une affaire qui a été classée, en quelque sorte, hein,
oui,
c'est ça,
hein. Oui, à tout point de vue classée. Hein, elle a été... classé sur le plan politique, classé sur le plan... Il y a eu un procès, qui a été assez vite réglé. Et puis après, elle a été classée, c'est-à-dire qu'on l'a mise, on les a mises à 40 mètres sous terre dans des armoires, et puis plus personne n'en a parlé.
D'accord. Alors, comment vous avez travaillé sur le plan de la recherche documentaire ? Parce que finalement, j'ai l'impression que vous apportez un certain nombre d'éléments qui n'apparaissent peut-être pas dans les différentes productions qui ont été réalisées sur ce sujet. Vous êtes plongé dans les archives, c'est ça ?
Oui, parce que les archives sont accessibles. Les archives publiques étaient accessibles après 40 ans, donc ça fait quand même déjà fin du siècle. Et après, les archives du tribunal, puisqu'il y a eu une affaire pénale, elles étaient accessibles 50 ans après. Mais sur le moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont intéressés aux archives du tribunal. Donc, en fait, moi, je suis intervenu là-dedans en 2017, donc elles étaient déjà ouvertes depuis en tout cas 15 ans. Donc, effectivement, j'ai eu accès à des archives que personne n'avait vues, tout simplement parce qu'ils n'y étaient pas intéressés. C'est exceptionnel, j'entends. Ouais. J'étais le premier à demander d'aller les voir, notamment des tas de documents qui avaient été classés secret défense. Mm-hmm. Et c'est là qu'on apprend que sur quoi porter ces écoutes téléphoniques, qui a été un peu... Enfin, on apprend beaucoup de choses. Alors, on a essayé de sortir quelques éléments dans ce livre, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire.
Alors, il y a un casting absolument incroyable avec donc un barbouze français, des espions de tous bords, une attachée à l'ambassade de France en Suisse, hein, c'est ça, dont j'aimerais que vous nous parliez en quelques mots, parce qu'elle a quand même un parcours absolument incroyable.
Oui, alors c'est le personnage le plus glamour que nous ayons dans ce livre, où effectivement il y a beaucoup de barbouzes et de fonctionnaires gris. Non, en fait, c'est une femme qui s'appelait, parce qu'elle est décédée, Elisabeth de Miribel, et qui était une intellectuelle française, mais qui avait la particularité d'avoir été très jeune la secrétaire du général de Gaulle à Londres. Et elle pouvait s'enorgueillir d'avoir été la dactylo de De Gaulle, et c'est elle qui a dactylographié l'appel du 18 juin. Et après, elle est restée à Londres. Ensuite, elle a été comme journaliste sur le front en Italie, comme correspondante de guerre. Et puis, curieusement, je ne sais pas pourquoi, enfin, elle l'explique dans un livre, mais ce n'est pas très clair, elle s'est retirée dans un Carmel. Et ensuite, elle est arrivée à l'ambassade de France à Berne comme attachée d'information, attachée culturelle. Non, culturelle, c'était Guillemin, attachée d'information. Et là, elle est indirectement liée à cette histoire. Il y a peut-être eu une relation amoureuse, mais pas évidente, entre elle et ce procureur Dubois. Mais elle représentait un courant tout à fait différent, c'est que c'est une chrétienne de gauche. Et elle a été une des premières à signer des appels contre la torture en Algérie. notamment avec, à l'époque où il y avait le témoignage chrétien, je crois, enfin, la gauche catholique se préoccupait. Et c'est pour ça qu'elle a joué un petit rôle, parce qu'elle a voulu nuire à ce barbouze, cet agent secret qui tenait l'ambassade de France à Berne. Donc c'est un personnage annexe, mais évidemment très mystérieux, surtout qu'elle est de l'aristocratie française, elle descend du maréchal de Mac Mahon, qui avait été président de la République. Donc elle était d'une grande famille aristocratique française, mais là elle s'est retrouvée un peu dans cette affaire. Voilà.
Et donc notre René Dubois va se trouver, lui, acculé finalement par un certain nombre d'informations qui lui reviennent. Il va se retrouver dans une situation absolument impossible, puisque tout d'un coup, le risque se présente que tout ça soit dévoilé par la presse. Que la neutralité suisse finalement devienne une sorte de leurre auprès d'opinion à cette époque, et il subit une pression absolument incroyable à ce moment-là.
Tout à fait. Oui. Parce que quand l'affaire est rendue publique, vraisemblablement suite à des fuites probablement d'origine américaine, parce que les Américains avaient intérêt à faire tomber du bois, ou en tout cas à ce que cesse le canal d'information entre la France et la Suisse, enfin que les Suisses arrêtent de transmettre des informations compromettantes pour les Américains aux Français, effectivement, il s'est retrouvé coincé, parce que quand l'espionnage, on ne doit pas savoir que ça existe, ça doit être secret. Et là, tout d'un coup, tout le monde le savait. Et puis après, là, alors, après que l'affaire a éclaté, alors ça l'a effectivement mené au bord du précipice, voire dans le précipice. Et finalement, effectivement, après, la presse britannique notamment a publié pas mal d'articles très critique sur l'attitude de la Suisse.
Alors, on va donner la parole à Mathieu Berthaud, qui a mis en image donc ce récit. Est-ce que vous-même, vous connaissiez cette affaire?
Absolument pas.
Absolument non, pas.
Je n'ai jamais entendu parler. Ouais, ouais. Que les années 50 sont quand même assez loin pour moi.
Ouais. D'accord. Donc, ce n'est vraiment pas une affaire qui est inscrite dans l'imaginaire, dans la mémoire collective, en fait, suisse. Pas du tout.
Et puis, ouais. Bon, je pense que c'est de toute façon une époque où tout cela est bien verrouillé. Comme vous l'avez dit, ouais. On a des militaires. Enfin, ça se passe dans les hautes sphères du pouvoir. Donc, c'est quand même des choses qu'en général, on tente d'étouffer le plus possible. Mais je n'en ai jamais entendu parler.
Alors, quand Eric vous a proposé d'en faire une bande dessinée, quelle a été votre réaction? Parce que on s'attend davantage à ce qu'un récit comme celui-ci, très documenté, fasse l'objet d'un essai. Non pas d'une bande dessinée.
Tout d'abord, justement, il m'avait transmis un script, ou, disons, une ébauche de scénario qui était un peu comme ce résumé, bien complexe, en fait. Pour moi, ça me paraissait, intéressant, mais il y avait beaucoup de détails, il y avait beaucoup de gens impliqués. Enfin, j'avais un peu de la peine à envisager la chose, justement, en bande dessinée. Et puis, c'est à partir de là qu'on a commencé à réécrire ensemble, à retravailler l'affaire, à trouver l'angle le plus adéquat pour, se mettre vraiment dans la peau de ce personnage principal, au fond, cet anti-héros, ce loser, en quelque sorte, qui est donc René Dubois. Et puis, ça me semblait évident pour que l'histoire passe, de rester collé vraiment à la psychologie de ce personnage, et puis d'en faire, une bande dessinée en plus d'atmosphère aussi, parce qu'il y avait là bien des choses intéressantes pour un dessinateur.
Ouais. D'où le recours au noir et blanc, au lavis. Hein. Il semblait impossible de faire autrement que d'utiliser le noir et blanc.
Oui, c'est sûr qu'il y a une inspiration du film noir d'époque. Il y a aussi cette ville de Berne, si vous la connaissez, la vieille ville de Berne qui n'a pas changé. Elle est construite entièrement avec cette pierre gris vert. Donc, c'est pas une ville du sud de l'Italie, quoi. Donc, on a là effectivement une certaine austérité. Et puis, moi, je trouvais que ça, c'était, la meilleure technique pour représenter cette atmosphère-là.
Alors, dans une histoire comme celle-ci, où finalement on a beaucoup d'informations, mais aucune image, aucune photographie, aucun film, etc., qu'est-ce que la bande dessinée peut précisément apporter ?
Alors déjà, si on reprend la question du casting, c'est vrai qu'il y a des personnages comme justement Mercier, pour lesquels on n'a qu'une seule image, ou peut-être deux photos, mais qui sont prises, à quelques secondes d'intervalle.
Mercier, c'est le barbouze, hein, je rappelle.
Voilà, le
barbouze français.
Je vous le montrerai après, peut-être. Bon, ça, c'est notre héros principal, donc, procureur du bois. Mais même pour lui, on a assez peu d'images, au fond. des photos de presse. Voilà, c'est vrai qu'on est loin de l'Instagram et des réseaux sociaux. À l'époque, on se photographie peut-être moins qu'aujourd'hui, certainement. Et donc, voilà, moi, à partir d'une ou deux images, j'essaye de reconstituer ces personnages en les imaginant sous différents angles. Donc, notre cher Barbouze.
Ouais. Donc, qui était attaché commercial, hein, il faut quand même le préciser, à l'ambassade.
Ouais, sous couverture.
On se demande quel commerce il pouvait faire.
Il était colonel du SDEC, puisqu'il dépendait directement. Il dépendait directement du. Ah oui, pour l'enregistrement.
Et il dépendait directement du gouvernement. Donc, il était en ligne directe avec la présidence du Conseil. Donc, c'était un homme très important. Ouais. Ouais, mais il était sous couverture d'attaché commercial.
Ah oui. Voilà, donc, sous couverture signifie aussi qu'il y a très peu de documents sur le personnage. Quoi.
D'accord. Oui, donc voilà, donc c'est aussi effectivement une reconstitution d'atmosphère, comme vous le disiez, parce qu'on est vraiment dans les années 50. Est-ce que le cinéma, finalement, a influencé le cinéma d'espionnage de cette époque-là également, a influencé votre travail, vos recherches?
Oui, alors je dirais, bon, j'ai vu, bien entendu, comme tout un chacun des films de ces années-là, mais je ne suis pas un cinéphile assez pointu pour, disons, avoir vraiment puisé à cette source. Je me suis plus inspiré d'auteurs et de littérature, en fait, du roman noir ou, disons, même de romans d'espionnage, de gens comme Ambler ou John le Carré ou d'autres. Et aussi, j'ai pensé beaucoup à Simenon pour, retransmettre vraiment cette atmosphère un peu glauque et un peu dépressive de ces années-là.
Mais vous avez voulu rester assez proche, finalement, enfin très proche de la réalité même. Hein, vous auriez pu imaginer des personnages avec des têtes, vous voyez, de ces acteurs-là, des acteurs de cette époque-là. Voilà, Adam Humphrey Bogart ou...
Bon, franchement, ils avaient des têtes... ils auraient pu faire du cinéma, au fond. Ouais. Quoi, parce que, je veux dire, ce Max Ulrich, qui est un flic pourri...
Ils avaient la tête de l'emploi, quoi.
Ils avaient vraiment la tête de l'emploi. Je dirais même Dubois, qui est finalement... on va pas dire qu'il est bel homme, mais il pourrait avoir fait du cinéma. Donc là, j'ai pas eu vraiment, disons, à sortir de la réalité. Bon, dehors du fait que j'ai dû inventer un peu de leur caractère, mais tout était là, au fond.
Oui, d'accord. Est-ce que dans un récit comme ça, on s'autorise finalement une forme de liberté narrative, que ce soit dans les dialogues ou que ce soit dans la représentation de certaines scènes, voire même une forme de licence littéraire, vous voyez?
En tout cas, dans les dialogues, certainement, parce que là, il y a la nécessité de concevoir des dialogues qui collent avec la BD, parce que voilà, c'est quand même des filacteurs. Il y a une surface qui peut contenir un certain nombre de caractères. On doit faire court, être assez efficace. Donc là, évidemment, il y a tout un travail d'écriture. Après, je dirais, bon, dans l'écriture, dans tel quel scénario, je laisse parler Eric.
Moi, je trouvais que cette histoire était folle parce qu'en fait, la réalité dépasse la fiction. Donc, je ne voulais pas mettre de fiction au sens... bien sûr, c'est fictionnisé dans la mesure où on fait parler les personnages sans savoir exactement ce qu'ils se disaient. Mais moi, j'ai fait très attention que ce soit crédible parce que comme j'ai eu accès dans les archives à toutes les auditions de témoins, parce qu'il y a quand même eu une enquête après d'un procureur extraordinaire qui a enquêté sur ce qu'avait fait son prédécesseur. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné, qui ont raconté comment ça s'était passé, ce qu'on leur avait dit. Donc, j'ai essayé de réutiliser aussi des mots pour être au plus proche de la réalité. Donc, je n'avais pas du tout envie, je trouve que c'est déjà assez fort en soi, et je ne voulais pas que le lecteur, parce que c'est une histoire incroyable, donc que le lecteur se dise, tout est inventé, en fait, ce n'est pas possible. Il ne se passera jamais des trucs comme ça dans notre cher petit pays tranquille. Ce n'est pas possible qu'on ait violé un certain nombre de règles. Donc, je voulais vraiment que ce soit vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin, on a mis une partie documentaire avec les photos des personnages, des documents réels, pour montrer que ce que le lecteur vient de lire, c'est en tout cas historiquement, alors il y a encore des zones d'ombre, hein, mais enfin, on a vraiment essayé d'être au plus près de la réalité. Donc non, ce n'est pas une œuvre de fiction. On aurait pu être tenté, on parlait d'Elisabeth de Miribel, évidemment, moi j'ai un ami qui m'a dit « Ah, mais c'est incroyable, tu as un personnage fantastique, imagine !» Une histoire glamour entre ce procureur un peu triste et cette madame de Miribel, on l'a juste suggéré parce que j'ai lu qu'effectivement, il y a eu deux témoins qui ont dit qu'ils les avaient souvent vus ensemble, que Dubois venait rendre visite à cette madame de Miribel. Donc je me suis tenu à cela, mais on n'a jamais su exactement ce qui s'était passé entre eux. Mais on aurait pu, si on avait voulu faire un vrai roman d'espionnage, rajouter du sexe et de l'amour, mais on est resté un peu en arrière.
Là, vous laissez quand même la place à la suggestion. Quand même,
oui, hein, ouais, on laisse un tout petit peu de suggestion. C'est très sage.
Hein. Ça aurait pu faire un film, en fait, cette affaire-là. Hollywood aurait traité, évidemment, totalement différemment que d'un cinéaste européen, suisse, par exemple.
Il y avait eu un projet, j'ai retrouvé dans les archives...
J'ai retrouvé une lettre qui avait été envoyée par Granada TV, qui était une
chaîne de télévision privée
britannique, ouais.
En 1961, je crois. Ils demandaient naïvement l'autorisation d'avoir des contacts parce qu'ils avaient envie de faire. À l'époque, c'est ce qu'on appelait des docudramas, en fait, des docu-fiction.
Évidemment, ils se sont fait remballer. On a dit non, il n'est pas question qu'on parle, personne ne. Donc il y avait eu un projet. Maintenant, peut-être qu'il y aura un film, on ne sait pas. On attend, on est prêt à
prendre les droits. Hein. Ça vous intéresse.
Mathieu, au niveau du découpage, en fait, j'ai l'impression que ça n'a pas été quand même très facile de faire tenir tout ça en 150 pages, à peu près, 150 planches, en sachant que même c'est seulement une partie de l'affaire qui est traitée. Hein, puisqu'il y a eu un procès, par la suite, il y a eu des enquêtes dans la presse britannique notamment, il y a eu un certain nombre de retombées qui ont suivi. Et finalement, 150 pages, c'est assez court hein, pour raconter autant de péripéties, d'événements qui s'imbriquent les uns dans les autres.
C'est-à-dire, je pense qu'au départ, on était même parti plutôt sur 80 pages ou quelque chose d'encore plus réduit, quoi. Enfin, c'était un peu le volume du livre qu'on imaginait. Et puis, à mesure que je découpais, justement, pour éviter aussi d'avoir, une trop grande densité sur beaucoup de pages, moi, je trouvais intéressant aussi d'avoir un certain nombre de moments où il se passe rien. Où on a juste une déambulation dans la ville du personnage.
Des silences, oui.
Ouais, des silences.
Il faut que ça reste de la bande dessinée.
Exactement. Ouais, ouais. Et donc, évidemment, alors là, ça, on allait toujours vers un volume plus important. Mais en même temps, moi, j'ai vraiment insisté pour qu'on aille sur du less is more, enfin, qu'on garde le sucre, l'essentiel de ce qui devait être raconté, qu'on évacue, au fond, tout ce qui était peut-être intéressant, mais qui n'ajoutait pas, la compréhension de l'histoire. Mm-hmm. C'était ça, aller vers une certaine simplicité du récit pour qu'on puisse vraiment saisir les enjeux sans avoir à se perdre dans des sous-histoires et ce genre de choses. Quoi.
Oui, parce que c'est un livre sur les mécanismes, en fait, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On n'a pas d'explication, en fait, sur qui a lâché l'affaire, qui a lâché ce pauvre procureur, finalement. On a des suppositions, mais il n'y a pas une clé à l'arrivée qui est livrée au lecteur. Finalement, c'est un peu à lui aussi de travailler.
Oui, même... on essaye quand même dans la partie historique à la fin de dire, de donner quelques pistes. Et moi, j'ai quand même eu la confirmation, un peu par hasard,
qu'en fait, le rôle
des Américains était déterminant. C'est-à-dire qu'à un moment où la CIA était très active parce qu'il voulait absolument que cessent ses relations avec les Français.
Mais
il ne voulait pas tuer Dubois, hein, c'est pas du tout le but. Mais disons, c'est les premiers qui ont alerté en disant que Dubois était venu ici à Paris, invité par les services secrets.
Le champagne coulait.
Le champagne, on l'a emmené aux Folies Bergères, enfin on l'a un peu promené. Est-ce qu'on lui a mis aussi une danseuse dans les bras et une petite photo dans un coin? C'est possible. Ils ont vraiment voulu l'embobiner à tout point de vue. Et ça, c'est les Américains qui en ont parlé les premiers.
Oui. Les Américains, certes, mais on voit bien dans votre ouvrage que tout le monde se tient un peu par la barbichette et que tout le monde est responsable, finalement.
On avait intérêt à... Pour des raisons diverses. Il y a aussi les services secrets allemands qui étaient concernés parce qu'il y avait des histoires de trafic d'armes. Il faut voir que ce petit pays, à cette époque-là, était vraiment au cœur de toutes sortes de scandales, de problèmes. Mmh. On est au sortir de la guerre, on est en pleine guerre froide. Mmh. Effectivement, il y a ce petit procureur qui n'était absolument pas préparé à devenir chef de contre-espionnage, ça lui a un petit peu monté à la tête. Il venait d'en bas et probablement qu'il a fait quelques conneries, bien sûr. Sinon, il serait pas tombé.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore cette contradiction dans les deux casquettes, finalement?
Non,
ça a cessé, mais il n'y a pas très, très longtemps.
Ça vient du fait qu'il y avait un petit appareil d'État.
C'était un État fédéral. Les cantons ont encore des polices. Et au niveau fédéral, il y avait peu de moyens. Et
et ils ont donné à la même personne le soin de défendre les intérêts suprêmes de l'État. Donc c'est comme si en France, il y avait la police et la justice dans le même ministère.
Oui, avec des objectifs un peu contraires quand même.
Absolument, ouais.
Oui, c'est quand même assez incroyable. Est-il exact aussi, comme le disait, je crois, un journaliste anglais du Sunday Times, oui, qui a travaillé sur le sujet, qui a fait une grosse enquête sur le sujet après l'affaire, ouais, on va dire, qu'à Berne, à cette époque-là, il y avait autant d'espions que d'horlogers.
Oui, c'était une phrase amusante, avec toujours ces idées. C'est marrant parce que c'est l'époque où on parle du chocolat, on parle du fromage, on parle des horlogers, c'est tous les clichés par rapport à la Suisse. Mais il n'avait pas tort, parce qu'effectivement, c'était un vrai nid d'espions, dans la mesure où, ça s'est hérité de la Deuxième Guerre mondiale. Même Dulles, qui est devenu ensuite directeur de la CIA, il avait été pendant au moins 3 ans, je crois, en poste à Berne, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait beaucoup, beaucoup. Il y avait aussi l'ambassade de Chine, qui était ouverte depuis la reconnaissance. La Suisse a été un des premiers pays en Europe à reconnaître la Chine populaire. Donc il y avait une grosse ambassade de Chine. Donc tout le monde était très intéressé à savoir ce que ces Chinois faisaient là. Il y avait toutes les ambassades des pays de l'Est. Donc il y avait pas mal de monde. Oui, c'était. D'ailleurs, aujourd'hui, le thème revient, puisqu'il y a récemment un journal qui a dit qu'un tiers de la mission russe aux Nations Unies à Genève était rattachée au FSB. Donc la Suisse est encore un nid d'espions. Mais oui, Paris est aussi un nid d'espions, hein, cela dit.
Je ne sais pas.
Je ne veux pas attirer la couverture à nous. Mais c'est vrai que ça a toujours été, la Suisse a toujours été un endroit, c'est à la fois un salon où l'on cause et également un endroit où on s'espionne parmi. Quoi.
Qu'est-ce que cette affaire dit de la Suisse d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des échos qui peuvent...
Oui, il y a pas mal d'échos, surtout maintenant. À l'époque, on a commencé, pas tellement, mais maintenant, avec la crise... notamment ukrainienne, il y a tout un débat en Suisse très fort de savoir est-ce qu'on va abandonner la neutralité. Il y a des gens qui voudraient que la Suisse adhère à l'OTAN, que maintenant on dit ça suffit, cette espèce de double jeu. Il y a toute une tradition un peu mythologique qui veut... Enfin, c'est compliqué, le débat sur la neutralité est de nouveau très chaud, alors qu'il avait été un petit peu évacué par la fin de la guerre froide. Donc oui, il y a une résonance. Il y a aussi une résonance par rapport au procureur général, parce que c'est un poste... à risque. Hein. Il y a eu, tous les successeurs de Dubois ont eu des emmerdes. Donc, récemment encore, il y a eu toute une histoire avec la FIFA. Vous savez, puisque le siège de la FIFA est en Suisse, et c'est le procureur général de la Confédération. Ouais. Il a dû démissionner parce qu'il a été accusé d'être en collusion avec un autre. Il y a eu pas mal d'histoires. Donc, oui, il y a une petite résonance aussi autour de cela.
D'accord. Bon, bienvenue en Suisse. Hein. Mathieu, peut-être en quelques mots, comment vous avez travaillé sur un plan vraiment purement technique? On voit que c'est du lavis, hein, je crois que vous êtes quelqu'un qui appréciait le noir et blanc dans le reste de votre travail par ailleurs, même si vous êtes arrivé de faire de la couleur. Mais
tout à fait. Bon, là, pour une histoire comme celle-ci, j'envisageais pas justement d'utiliser de la couleur. Mais je dirais que moi, là, j'ai vraiment travaillé comme un... On pourrait dire, certainement comme un metteur en scène, mais pour revenir à l'analogie disons, cinématographique, beaucoup comme un costumier, comme un accessoiriste aussi, en fait. Donc j'ai cherché énormément d'images, que aussi Eric, bien entendu, m'en a transmises quelques-unes. Et je me suis retrouvé avec beaucoup d'éléments, que ce soit des photos de voitures anciennes, comment s'habillaient ces gens, quelles étaient leurs attitudes. On voit qu'ils fumaient énormément, ça buvait pas mal aussi. Bon, ça, c'était un peu pour avoir, disons, une idée générale. Et puis après, d'un point de vue simplement technique, comme je l'ai montré au préalable, bon, ben là, on est déjà dans un découpage. Il y a une étape qui précède celle-ci, qui est un pré-découpage, où là, c'est vraiment une succession de cases pour voir à peu près comment décomposer, disons, une action ou une scène. Ensuite, là, on a donc un crayonné qui est déjà pour moi presque une étape quasi fixe, quoi. Et puis, après, j'ai travaillé de manière assez, disons, assez classique, puisque je réalise ici un ancrage, donc tout ce qui touche au contour. Et puis, la dernière étape, c'est vraiment la pose des lavis et le travail de l'encre pour donner du relief, en fait, à tout ça.
Ouais. C'est la première fois que vous utilisiez cette technique ou pas ?
Sur un long format, c'est la première fois. Après, ouais, je l'ai utilisé pour de l'illustration, mais disons sur 150 pages, c'est la première fois.
Ouais, d'accord. C'est un travail de longue haleine, évidemment, c'est de l'artisanat, hein, faut le rappeler.
C'est ça, ouais, tout à fait.
Donc là, vous nous montrez des photos de, parce que ouais, vous avez fait des repères,
beaucoup de repérages.
Vous avez fait des repérages.
Voilà, et puis bon, ce sont des bâtiments, c'est vraiment le bâtiment dans lequel habitait Dubois, qui a pas changé en fait. Alors, on était typiquement dans les constructions de la fin des années 50. Et ensuite, bon là, on retrouve ces rues. Il y a eu tout un travail pour ma part, qui ne suis pas un spécialiste de l'automobile, pour savoir quel modèle existait ou n'existait pas encore en 57. J'ai eu un problème avec une Peugeot, notamment, que j'ai dû changer.
Parce qu'elle elle
n'existait pas encore.
Peugeot 404 en 57.
Voilà. C'était trop tôt. C'était beaucoup trop tôt. Par contre, on avait déjà, bien entendu, la Volkswagen, la Coccinelle, quoi. Donc voilà, après, c'est vraiment un travail tout à fait, je dirais, assez rigoureux d'images, de repérage, de déambulation dans la ville, où là aussi, je photographiais les cheminements et je le retranscrivais en dessin.
Comment a été perçu l'ouvrage en Suisse ?
Franchement, il a été très bien accueilli. On était très contents, parce que c'est quand même... C'est quand même pas une BD très grand public. Moi, j'en ai fait d'autres, deux autres qui ont eu beaucoup de succès, mais qui étaient plus grand public dans la thématique. Mais celle-ci a, pour l'instant, très bien marché. Oui. Un bon accueil de la presse aussi. Les journalistes étaient évidemment très intéressés. On a eu vraiment beaucoup de papiers. Et puis, les ventes marchent bien et tout. Alors, évidemment, pour nous, c'est un peu nouveau de venir sur le marché français avec quand même une histoire très, même si elle est franco-suisse, elle a quand même une couleur, c'est pour ça qu'on a essayé de rajouter un bandeau noir pour dire quand la France espionnait la Suisse, quand la France espionnait en Suisse aussi, c'est à la fois la Suisse et en Suisse. Donc on va voir quel écho il y a ici, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions, je sais qu'il y a, enfin vous êtes mieux placé que moi pour le dire, mais il y a je crois à peu près 500 titre de BD historique en français.
Ah, historique, je ne sais pas. En
chaque,
tout cas,
chaque année, je crois. Donc,
oui, je peux vous dire le nombre de nouveautés. Tout
que vous recevez chez vous.
Non, le nombre de nouveautés sorties par les éditeurs. On est dans les 6000, 8000. Donc,
ah oui, 1000 titres, tout compris. Hein, oui, donc, moi, je parlais de la BD historique.
Ça, je ne sais pas. Ouais,
c'est quelqu'un qui me l'avait dit.
Oui, mais c'est possible.
En disant, j'ai vu ce qui était sorti. Justement, un thème qui m'intéressait au moment des accords d'Évian, de la fin de la guerre d'Algérie.
Ouais.
Il y a eu au moins une soixantaine de titres ce thème.
Oui, c'est sûr. Est-ce que finalement l'objectif inavoué de cet ouvrage, c'est de rouvrir le dossier Dubois et finalement, parce qu'il a été jugé après sa mort, on peut le dire, comme étant finalement l'un des responsables ou le coupable
Directement, oui.
Directement,
disons, voilà. Disons que sa mort a été bien utile parce que comme il n'était plus là pour parler, on lui a mis sur le dos deux, trois choses. Ça a arrangé tout le monde qu'il soit mort, ouais, ça c'est sûr.
Mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'il soit rejugé d'une certaine façon ?
Il n'y a pas d'héritier, donc il n'y aura pas de réhabilitation. Mais il n'a pas été vraiment jugé. On l'a condamné, entre guillemets, politiquement, mais il n'a pas été pénalement condamné.
Il n'a pas eu d'obsèques nationales.
Ils ont fait des obsèques très discrètes. Ils ont expédié ça très vite. C'est fini. Mais non, l'objectif... Moi, j'aime bien raconter... Aller dans les pages un peu parallèles de l'histoire de mon pays pour raconter des choses qui n'ont pas vraiment été dites. Donc, pour ça, je suis très content que ça sorte pour le grand public. Mais je ne cherche pas à le réhabiliter, d'autant plus que moi, je pense qu'il y a un personnage quand même qui a commis pas mal d'actions que personnellement, je réprouve. C'était quand même le chef de la police politique, les mises sur écoute... Je n'irai pas jusqu'à le soutenir.
Je me suis quand même posé la question après avoir travaillé 2-3 ans avec ce type au fond, dont plus personne se souvient. Je trouvais que finalement c'est une forme d'hommage rendu à un oublié de l'histoire qui a certes failli et qui s'est planté, mais
Je trouve que vous faites preuve quand même d'assez d'empathie à son égard.
Ça c'est nouveau parce que jusqu'à maintenant pratiquement tous les articles, même le bouquin, même dans la thèse, il est un peu chargé. Mais c'est effectivement, nous, on a une nouvelle approche. Je ne dis pas qu'on le réhabilite, mais disons, effectivement, on a commencé à éprouver une certaine affection pour lui à force de le fréquenter. Et puis, c'est ce qu'on écrit à la fin du livre, c'est plus un, pour moi, c'est vraiment plus un fusible qu'un traître, quoi, disons. C'est un fusible. Il a été bien utile et puis et il était là au mauvais moment et puis on s'en est servi pour liquider cette histoire.
Alors pour terminer, parce que je crois que nous arrivons au terme de notre échange, j'aimerais simplement que vous me parliez de Mercier, dont j'ai oublié le prénom, c'était Marcel Mercier, voilà, qui a ensuite continué son œuvre, on va dire.
Ah oui, lui, il mérite plusieurs BD, alors Mercier, oui.
J'aimerais que vous me racontiez l'histoire de...
Ce qu'on en sait, il y a d'autres, j'ai peut-être une personne dans la salle qui le connaît aussi un petit peu, mais Mercier, c'était donc un homme venu de la Résistance, il était dans les services d'action de la Résistance, comme beaucoup d'ailleurs de ces barbouzes socialistes, peut-être pas lui, mais en tout cas le Boursicot qui était le chef du SDEC était un socialiste. Et donc il était militaire, rattaché au service donc du SDEC. Et ensuite, quand il est en Suisse, il joue le rôle dont on a parlé.
Alors je précise, le SDEC, c'est l'ancienne DGSE. Quoi. Voilà,
oui, exactement. C'était le nom de l'époque, si vous voulez dire, service d'enquête et de contre-espionnage ou un truc comme ça. Et donc... Après l'affaire, il a été, évidemment, les Suisses n'avaient pas envie de le garder très longtemps. Il a été déclaré persona non grata, comme il était là à titre diplomatique. Il est parti assez discrètement. Et il a eu toute une carrière qu'il a d'ailleurs menée au rang de général. Finalement, il est mort avec le titre de général. Il a continué à travailler pour les services, je dirais, chargés des axes. Ce n'était pas directement le service action. Mais enfin, il a probablement été un des initiateurs du mouvement qui s'appelait la Main Rouge, qui était un mouvement apparemment détaché des services secrets français, mais en fait qui était une création des services secrets et qui était là pour liquider les gens. Hein. Donc c'était... Et il y a eu notamment un cas à Genève d'un marchand d'armes qui a reçu une fléchette empoisonnée dans la nuque, comme dans Tintin presque. Hein. Et en rentrant chez lui... Tout d'un coup, il y a un type qui a actionné une sarbacane et hop, il a reçu une flèche et il est mort immédiatement, qui était empoisonné. Et c'est la Main Rouge qui a revendiqué cet attentat. La Main Rouge faisait semblant d'être une organisation d'extrême droite. On est avant l'OAS, hein, quand même, mais disons. Et en fait, elle était manipulée. C'était un paravent pour les services secrets. Mmh. Et Mercier est soupçonné d'avoir joué un rôle important. Mais bien sûr, il n'y a pas de preuves. Moi, j'ai été ici aux archives françaises, là, aux archives de la Défense, à Vincennes. Et pour avoir les elles sont ouvertes maintenant, en principe, mais les cartons concernant la Suisse sont vides. Il n'y a rien. Il y a plein de papiers jusqu'en 55, 56, et après, ça reprend en 58, 59. Mais pendant toute l'affaire Dubois, il n'y a rien du tout.
Ils ont tout mis au pilon.
Je ne sais pas. J'avais lu une interview de Boursicot qui disait, de toute façon, les archives, il n'y a pas d'archives chez nous. Donc, voilà. Donc on ne sait pas exactement quel était le rôle de Mercier. Mais en tout cas, c'est un homme qui a joué un rôle important après. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu après l'indépendance algérienne. Mais je crois qu'il a continué sa carrière et il est mort comme général.
D'accord. Bah écoutez, j'espère qu'on aura un jour une bande dessinée sur ce personnage truculent
on parle de lui dans une bande dessinée sur la Main Rouge. Ouais. Il y a une bande dessinée qui parle de la Main Rouge.
D'accord. Écoutez, merci. Merci à vous deux. Merci infiniment. J'espère que nous aurons des questions du public. N'hésitez pas.
Est-ce que vous avez dû recourir à la fiction parce qu'à certains moments, vous n'aviez plus d'éléments pour relier ce qui s'est passé ou chronologiquement les trous que...
Non. Alors, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a vraiment pas voulu... introduire de fiction pure, mais inévitablement, quand on reconstitue une scène où, par exemple, Mercier discute avec Dubois dans un escalier à Berne, on a dû reconstituer des dialogues, et je ne peux pas vous garantir que Mercier lui a dit ceci à tel moment. Mais j'ai retrouvé, par exemple, des documents qui disaient que Dubois s'était plaint à un de ses collègues, que Mercier avait fait pression sur lui. Donc... À partir de là, j'ai pu imaginer un dialogue, ou nous avons pu imaginer, parce qu'on a écrit ces dialogues à quatre mains, bien un peu comme... Donc ça, c'est évidemment une reconstitution, hein, mais ça n'est qu'une reconstitution à partir d'éléments réels.
On pourrait peut-être ajouter aussi que comme on a quand même, disons, décidé de se mettre à un certain moment dans la tête de René Dubois. Donc là, effectivement, il y a, disons, un angle, une part forcément fictionnelle, mais qui sert tout le récit, je dirais.
Je veux dire que c'est le problème de Madame de Méribel qui m'intéresse beaucoup, parce que je ne savais pas qu'elle avait des rapports avec Dubois, qu'ils soient sentimentaux ou pas, peu importe. Parce qu'en fait, c'est par elle que la CIA est intervenue, peut-être, mais la révélation dans la presse, c'est par elle. Il y a eu un dîner, un déjeuner ou un dîner à l'invitation d'une amie de Madame de Méribel qui a invité Serge Michel. Serge Michel qui était un homme du FLN, un Français, homme du FLN en Suisse. Et ils ont mangé ensemble et c'est là qu'elle lui a parlé de Dubois. Mais Serge Michel qui a révélé la chose à la presse. Donc la révélation même à la presse, ça vient directement de Madame de Méribel. Et je ne peux pas penser, comme ancienne secrétaire ou proche de Gaulle, qu'elle avait des relations avec la CIA. Ce n'est pas le domaine. Il n'y a pas de doute. Hein. Donc c'est très intéressant. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Ensuite, initialement, l'article devait paraître dans la Gazette de Lausanne, enfin la révélation. La Gazette de Lausanne, qui avait déjà publié tout l'article sur la première interview de Ferhat Abbas, qui avait fait un scandale, la France était élevée la contre, n'a pas voulu prendre le risque, et donc c'est la tribune de Genève qui l'a fait. Mais Madame de Méribel est la clé. Elle a la clé. Donc ça, c'est quand même très passionnant.
Oui, tout à fait. L'autre, tu as raison, c'est la clé. Je dirais que c'est une des clés, d'après ce qu'on a pu reconstituer. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où plusieurs personnes avaient intérêt à ce que cesse ce type de relation particulière entre les services secrets suisses et les services secrets français. Et il y avait les Américains, pour les raisons qu'on explique dans le livre, et j'en ai la preuve parce que le fils d'un des lanceurs d'alerte m'a confirmé que son père avait été informé par la CIA. Mais évidemment, elle a joué un rôle aussi décisif. Mais elle avait probablement des mobiles différents. C'est-à-dire qu'elle voulait probablement nuire à Mercier, qui prenait une place trop importante dans l'ambassade. Elle ne visait pas Dubois, elle, certainement pas.
Non, sûrement pas. Non, mais c'est quand même par elle que c'était rendu public.
Oui, ça s'est passé. Ouais, il y a eu en même temps une dépêche de la Société de presse qui a été... qui est sorti le même jour que l'article dans la Tribune de Genève. Mais ça, c'est un peu des détails. Mais tu as raison, Niels, elle a joué un rôle décisif, c'est sûr. Mais sa motivation était probablement plus une motivation politique, parce qu'elle a... Franco-française, oui, parce qu'elle voulait... En fait, elle voulait que cesse l'action de cet homme en Suisse. Ouais.
On peut parler rapidement de cette dépêche d'AP, ouais, absolument, et du sort qui a été réservé à son rédacteur, un journaliste qui ne va pas encore faire de la publicité à propos de la Suisse. Mais...
c'est une histoire folle, bon, mais c'est un peu un détail, mais le journaliste qui a publié cette dépêche le même jour où l'affaire est sortie dans la Tribune de Genève, ce journaliste était un Anglais qui s'appelait Goldsmith, qui était... correspondant au Palais des Nations Unies à Genève. Ouais. Et c'est lui, il racontait tout dans la dépêche. Mais lui, il a probablement été informé par... Enfin bon, c'est un détail. Par Mercier lui-même. Mais enfin bon, c'est compliqué. Eh bien, cet homme, il a été ensuite interrogé par le juge qui lui a dit, révélez-moi les sources. Et le gars lui a dit, non, écoutez, moi, nous, on ne révèle pas nos sources, quoi. Et il l'a mis en tôle pendant 24 heures, au secret, enfin, et ça a déclenché un tollé. L'enquête venait de démarrer et il y a eu des protestations depuis la direction américaine et anglaise d'EPI. Et il y a eu vraiment beaucoup de protestations. Donc l'enquête a mal commencé. Oui.
Non, écoutez, on va vous remercier. Merci infiniment d'être pour ce moment passé entre nous. Et je vous invite à vous procurer cet ouvrage absolument passionnant. Merci, bonne soirée. Merci.